L'affaire Gilles Deleuze.
Chapitre 1, épisode 2.
Cette histoire avait provoqué un sacré tumulte médiatique. Des semaines que les images tournoyaient sur les écrans et que les mots s'imprimaient sur divers papiers. Un philosophe retrouvé carbonisé. Mais qu'allait-il donc faire à Berlin? Pourquoi ce retrait si lointain, cette distance physique pour ce qui n'était après tout qu'un travail intellectuel? Oui, sanglotait-elle. Il allait plutôt bien, c'est vrai. On avait beaucoup bu ce soir-là, il semblait euphorique. L'atmosphère était joyeuse, tonique, droguée. Les convives valsaient, fébriles. Je me souviens de silhouettes, d'éclairs dans le ciel, illuminant l'appartement de manière expressionniste. Je me souviens de la musique assourdissante et puis du tonnerre qui grondait plus fort que les voix alcoolisées. Je n'arrive pas à le croire. Il arrivait au bout du projet, il y était presque. Le matin même, il me disait qu'il allait se jeter dans l'eau glacée et l'écrire, ce fameux livre, cette obsession de ces deux dernières années. Je ne comprends pas. Elle se tut. L'autre reprit. Je vous remercie. À Berlin, Violette Vandorin pour TV News Info Live Super France. Bon gré mal gré, cette histoire s'infiltrait donc dans toutes les cellules grises. Détail important, on disait que la police avait retrouvé sur place un téléphone portable. Dans la carte mémoire, une photographie de la victime, peu de temps avant l'incident, posant devant une fenêtre, un énorme parapluie à la main. Le même parapluie avait été retrouvé en bas de la même fenêtre, désossé sur le macadam humide. Maigre carcasse brûlée de baleines métalliques. Les ventes de l'entreprise de parapluies en question avaient d'ailleurs chuté de manière drastique depuis l'incident. Des colporteurs de sourires mielleux se déplaçaient de plateaux de télévision en chaîne de radio pour rassurer le peuple. Oui, cet accident était rarissime. Non, ce parapluie ne présentait pas de danger particulier. Effectivement, les conditions avaient leur rôle à jouer. Près d'une dizaine d'éclairs par seconde, des rafales de vent extrêmement violentes, des gouttes de pluie grosses comme des pommes. Le balai de lumière se poursuivait et l'histoire se propageait. Elle semblait avoir une vie propre, on ne la maîtrisait plus. Tout le monde avait son mot à dire. Les vendeurs de parapluies côtoyaient les météorologues, les spécialistes du corps médical, les experts en fenêtres qui affirmaient qu'on pouvait être certain que cette fenêtre avait été arrachée pour venir se briser, 6 étages plus bas. Mais n'était-ce pas le vent? La foudre pouvait-elle véritablement provoquer de telles lésions? Tous s'agitaient et cherchaient à scintiller dans la lumière de cet événement insensé. En somme, on n'avait jamais vu cela. Une nuit, au cours d'une fête, lors d'un orage terrible, un jeune homme était tombé par la fenêtre du 6e étage de son appartement berlinois. Muni de l'énorme parapluie en question, il aurait été foudroyé en plein vol. Le corps n'ayant pas été retrouvé, on estimait qu'il avait été calciné. Les choses ne s'arrêtaient pas là. Si le bureau chargé des enquêtes criminelles avait dû s'immiscer dans l'histoire, c'était pour une raison presque inouïe. Le même soir, alerté par un bruit qui avait détonné, tous ceux qui se trémoussaient à droite, à gauche, en bas, en haut, s'étaient précipités dans la chambre adjacente, celle du jeune homme. La fenêtre y était ouverte, le chambranle arraché. En se penchant et en s'agrippant au rebord, on aperçut tout en bas des traces sanglantes, une masse sombre, parapluie, et des débris de verre. Sur le lit, un papier était posé sur une montagne de manteaux, la chambre étant pour l'occasion devenue un vestiaire. Sur le papier, 4 mots. Au revoir, au revoir. La famille, bouleversée, avait dès lors, un temps, songé au suicide. Il se disait que, par désespoir, tourmenté par les difficultés qu'il avait rencontrées en écrivant ce fameux livre, il avait sauté par la fenêtre. Une association malfaisante l'avait cependant poussé à attaquer en justice et lui avait fait voir les choses différemment. N'était-ce pas plutôt un crime ? Selon cette hypothèse, son investissement total dans le projet aurait simplement mal tourné. Parvenu au terme de l'œuvre du philosophe sur lequel il travaillait, n'avait-il pas aussi singé son dernier geste? Emporté dans son élan, ne s'était-il pas, comme son maître, jeté par la fenêtre? Gilles Deleuze ne l'avait-il pas tué ?